Deuxième partie. Le capitaine. Cela me semble étrange, à présent, que je l'ai si peu connu. Mon attention, ma ferveur, tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure. Il la ruina dans le dessein de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui? Qu'il construisait pour moi, à ravir, des maisons de hanneton avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux. Qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheter blancs que je mangeais à poignées. Qu'il nageait avec sa jambe unique, plus vite et mieux que ses rivaux à quatre membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris « en apparence ». La timidité étrange des pères, dans leur rapport avec leurs enfants, m'a donné depuis beaucoup à penser. Les deux aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils, le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrais, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans. « Écoute ça !» me disait mon père. J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. « Hein ?» interrogeait mon père. « Je crois que cette fois-ci... »« Eh bien, parle !» Je hochais ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit manteau en bille, et je laissais tomber mon blâme. « Toujours trop d'adjectifs !» Alors mon père éclatait, écrasait d'invectives la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine imperturbable ajoutait « Je te l'avais déjà dit la semaine dernière, pour l'eau d'Apolbert, trop d'adjectifs !» Il devait, derrière moi, rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux et déjà confraternels. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouille mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais obscurément d'écrire, et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière des lyriques ? Lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle mêlée, superposée. Je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne, ni de rien. Oui, tous quatre, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne ? Nous avons, toute sa vie, troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants. À défaut d'une tendresse, beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement, un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller, jusqu'au jour où l'amour grandissant, mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les personnages dans le jardin. La rose, le treillage qui la portait, je les peindrai de mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de Reps, il est resté assis. Les deux miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé. À jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce, en dehors, comme lui, et que comme cette main, mes mains froissent, roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère, donc. Je ne parlerai pas de mes colères qui me viennent de lui. Mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mit de deux coups de son pied unique le chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle, en moi, ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air, jusqu'au plafond que je repoussais des deux mains et des genoux, et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline, et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomate, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande comme un remède, passé 70 ans. Sédentaire, ce méridional, tout blanc dans sa peau de satin, n'engraissa jamais. « Italien, homme au couteau !» Ainsi l'invectivait ma mère, quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard dont le manche de corne cachait un ressort ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui des grondements, des jurons grandiloquents, auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi, une fois, d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable. J'avais 11 ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier, à sa guise, si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala je ne sais quel cachet et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelques 20 années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit, sans élever le ton et d'un accent enchanteur, « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre !» Quelle suavité! Je fus saisie d'enthousiasme. Le beau son, plein, musical comme le chant de la mer en courroux. N'eût été la douleur de Sido, j'aurais regagné dansant le jardin et allègrement espéré la juste mort du docteur R. Mal connu, méconnu. « Ton incorrigible gaieté !» s'écriait ma mère. Ce n'était pas reproche, mais étonnement. Elle le croyait gai, parce qu'il chantait. Mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. À présent, je me tourmente à cause de mon père, car je sais qu'il eut, mieux que toutes les séductions, la vertu d'être triste à bon escient, et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme, il brodait avec hardiesse, sauf cette mélodie qui s'élevait de lui, l'ai-je vu gai ? Il allait, précédé, protégé par son chant.
« Rayons dorés, tièdes, zéphyrs !» fredonnait-il en descendant notre rue déserte.
Ainsi, elle ignorerait, en l'entendant venir, que la roche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage et qu'un prête-nom du même la roche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable.
« Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchanté ? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. »
Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver, afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas.
Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour. et doucement on y passe la vie, et doucement on y passe la vie, en célébrant le champagne et l'amour, en célébrant le champagne et l'amour, en célébrant le champagne et l'amour. S'il jette trop au mur de la rue de l'Hospice le gruppetto, le point d'orgue final, et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaîtra sur le seuil, scandalisée, riante. « Oh, Colette ! Dans la rue !» Et moyennant peut-être deux ou trois grivoiseries, du genre ordinaire, décochées à une jeune voisine, Sido froncera son sourcil clairsemé de joconde et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. « Il va falloir vendre la forge. Vendre la forge, mon Dieu. Vendre la forge, aussi, après les mets, les cholins, les lambert. Gai ? Et pourquoi eût-il été, sincèrement, gai ? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation, après avoir eu besoin, dans sa jeunesse, de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Gottschau, vit encore et garde des lettres, redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers. Il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournes et le soldat Lefebvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Gottschau des mots de mon père. 1859. Guerre d'Italie. Mon père, à 29 ans, tombe, la cuisse gauche arrachée, devant Melegnano. Fournes et Lefebvre s'élancent, le rapportent. « Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine ?» Au milieu de la place, sous le drapeau. Il n'a conté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il ne nous a jamais dit, à nous, comment il gisait à côté de son vieux maréchal, MacMahon. Il ne m'a jamais parlé, à moi, de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je l'apprends 20 ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard. Trop tard. C'est le mot des négligents, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire. Mais n'aurais-je pas dû forcer, quand il était vivant, sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande ? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître ?